Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, au FC Vintage, j'ai la chance, le plaisir d'avoir et d'accueillir Frédéric Lega. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous. Bonjour à toi.
Eh ben merci beaucoup Frédéric, on t'accueille pour parler de ton dernier ouvrage, Les plus beaux exploits de la Coupe du Monde. Tu relates dans cet ouvrage passionnant tous les exploits, on peut dire plutôt des petites équipes, hein, souvent des équipes qu'on n'attendait pas en Coupe du Monde. Et moi je te dis, je me suis vraiment passionné pour ton livre parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je te présente en deux minutes, hein. Tu t'appelles Frédéric Lega, tu as 49 ans, tu es un passionné de foot et d'histoire. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire deux livres sur le football ?
Bah, écoute, bon, ça fait quand même à peu près 6 ans que j'écris maintenant, presque 7. Voilà, bon, j'ai toujours été dans le domaine de l'histoire, puis bon, ça me permet quand même de concilier le football et l'histoire, parce que l'histoire du football, notamment au XXe siècle, c'est l'histoire du XXe siècle.
Ouais, et si on étudiait l'histoire par le prisme du football, je suis sûr qu'il y a pas mal d'enfants qui seraient les premiers arrivés à leur cours d'histoire, parce que souvent, le football nous en dit beaucoup aussi sur notre histoire, surtout depuis les 100 ans qui viennent de s'écouler.
Non, c'est ça. Comme je te dis, c'est toute l'histoire du XXe siècle qui se résume, qui se reflète dans celle du football de la même époque.
Alors, ton premier livre, ça s'intitule, pardon, « Les destins maudits du football ». C'est truffé d'histoires incroyables, hein. On aurait pu presque faire un film à chaque histoire. Quelle est pour toi l'histoire la plus marquante des destins maudits ?
Des destins maudits, il y en a quand même quelques-unes d'histoires qui m'ont frappé, notamment celle de ce joueur hongrois, de cette grande équipe de Hongrie des années 45-52. Il a même joué avec Puskás, Coxis. Et c'est une histoire qu'on connaît pas du tout en France, l'histoire de Sándor Csúcs. Excuse-moi oui. La prononciation.
Hein. Ouais, je crois qu'on t'en voudra pas. Tu peux résumer vite fait son histoire pour qu'on puisse identifier un petit peu qui il était et pourquoi c'est un destin maudit.
Non, voilà, ça se passe au début des années 50, donc prise de pouvoir par les communistes en 48, hein. En Hongrie, c'est un joueur qui a vécu une histoire d'amour adultère avec une chanteuse de jazz qui était à la mode à l'époque dans le pays.
On précise à tous nos éditeurs du FC Vintage qu'ils font ce qu'ils veulent, mais l'adultère, c'est pas bien.
Bah, c'est surtout pas bien pour la morale communiste et socialiste de l'époque. C'est inenvisageable dans une société communiste. Donc, ils ont eu des soucis avec le régime. Ils ont été forcés de fuir le pays. Malheureusement, le passeur qui devait leur faire fuir le pays faisait partie de la terrible AVH, la police secrète du régime. Ils ont été arrêtés et Sándor Csúcs a été pendu après un procès truqué, comme tu peux l'imaginer.
Alors, moi, dans cette histoire, moi, j'ai les destins maudits du football, je vous conseille ce livre, c'est passionnant. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Il y a une histoire qui m'a forcément beaucoup touché, c'est celle de Sindelar, parce que c'est le Mozart du football, hein, j'en avais parlé lors d'une émission au FC Vintage. C'est vrai que c'est absolument passionnant, c'est-à-dire ce joueur qui ne veut pas jouer pour l'équipe de l'Anschluss, hein, c'est ça, c'est toi l'historien Fred. Hein.
L'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie a eu lieu en mars 38. Donc, il a fallu demander, si je puis dire, pour ne pas dire donner l'ordre, hein, aux joueurs autrichiens de bien vouloir intégrer donc la nouvelle équipe d'Allemagne.
Ouais.
Et voilà, donc il y en a pas mal qui ont dit oui, certains ont dit non, mais bon, c'est pas la majorité, hein. Si Ndelaar était en fin de carrière, il commençait à se faire vieux. Il avait, je ne sais plus quel âge, 32, 33 ans. Ndelaar n'a pas voulu. C'était une mauvaise nouvelle, hein, pour cette équipe d'Allemagne, parce qu'il y avait la Coupe du Monde 1938, 3 mois plus tard, à laquelle était d'ailleurs qualifiée l'équipe d'Autriche, qui a dû déclarer forfait, bien évidemment. Et donc voilà, ils ont organisé un grand match de la réconciliation, si on peut dire, entre les Autrichiens et les Allemands. Un match qui devait se terminer par un 0-0. On connaissait le résultat à l'avance.
Oh ben, généralement, sur les Allemagnes-Autriche, il y avait souvent des petits arrangements. Je crois qu'on va les retrouver d'ailleurs en 1982 et que ça va être aux dépens d'une équipe dont tu parles beaucoup dans le livre sur les plus beaux exploits de la Coupe du Monde.
Exactement, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, ouais, bah oui.
Ah ben on va en parler, assez rapidement parce que il faut qu'on parle aussi de ce livre, Les plus beaux exploits de la Coupe du Monde. Même si on pourrait revenir pendant des heures et des heures sur les destins maudits, j'aurais juste, Fred, et je pense que tu m'accorderas ce temps nécessaire, parce que dans les destins maudits, tu parles de quelqu'un qu'on aime beaucoup au FC Vintage et dans tous les groupes de nostalgiques. On a tous été marqués forcément par la mort de Jean-Pierre Adams, qui nous a quittés le 6 septembre. Et forcément, on a une pensée très émue pour Bernadette, sa femme,
Tout à fait.
qui a vraiment eu un. Ouais, qui est une femme remarquable, c'est une sainte, cette dame. Et puis cette histoire, elle fait partie un peu de notre patrimoine, parce que dans notre enfance, on a tous entendu parler de ce grand joueur, de ce rock qu'est Jean-Pierre Adams, qui joue avec Marius Trésor et qui, on connaît la suite, a eu un destin à maudit, alors que ça aurait presque pu être un destin extraordinaire à la base.
Ouais, j'ai été extrêmement touché, mais comme toi, hein, et comme beaucoup, par sa mort. Puis d'autant plus, ouais, que j'ai l'impression, enfin, je ne sais pas si je fais partie de sa vie, mais en tout cas, lui fait partie de la mienne. Désormais, j'ai écrit sur lui, j'ai passé du temps avec lui. Et voilà, j'ai été très touché par l'annonce de sa mort. Et j'ai une grosse pensée, effectivement, pour sa femme Bernadette, qui a gentiment voulu préfacer, voilà, c'est ça, mon livre, à qui j'ai parlé. C'est une sainte.
Et c'est l'occasion aussi, Frédéric, si tu le veux bien, et je pense que là aussi tu ne t'opposeras pas qu'on passe à l'époque on disait un message vibrant quand on écoutait Vibration, ça c'est aussi très vintage. Un petit coucou à deux garçons qui ont tout fait aussi pour que la mémoire de Jean-Pierre Adams puisse rester. Et puis bah, moi aussi j'ai été embarqué, c'est Cyril Guénot. Et puis
Tout à
Michel
fait.
Hureau,
Tout à
qui
fait.
ont vraiment, qui m'ont permis de vivre des aventures fantastiques. Je les embrasse et je pense à eux parce que je sais que ça les a beaucoup affectés. Le décès de Jean-Pierre, ils étaient aux obsèques et c'était forcément très touchant. Fred, est-ce que ta passion du foot, elle est toujours intacte aujourd'hui?
Enfin, j'aurais envie de te dire oui. Mais en fait, la réponse est non.
Qu'est-ce qui fait que ça a changé?
Bah, il y a de plus en plus de personnes qui me rejoignent et peut-être qui te rejoignent aussi, parce que je pense que t'es pas loin de penser comme moi. Le football moderne, moi je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui se reconnaissent dans le football moderne, des équipes de mercenaires. Je veux dire, il y a 50 ans, 30 ans, match de Coupe d'Europe entre le Dynamo Kiev et le Celtic, t'avais des Soviétiques et des Écossais, tu savais ce que t'allais voir.
Oui, tu
Aujourd'hui,
savais que tu avais une opposition de style.
exactement, puis tu savais le vécu social, politique de ces équipes. Aujourd'hui, tu te reconnais plus du tout. Les joueurs changent de club parfois deux, trois fois la même saison. Puis c'est le règne de l'argent.
De l'argent. Oui. Mais de toute façon, on sait que l'argent est dans le football, donc ça, c'est quelque chose de presque, c'est induit. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus l'argent qui guide l'argent guide plus que la passion. C'est ça, je veux dire. On voit bien que parfois, certains joueurs sont capables de faire des choix plus en adéquation avec l'offre plutôt qu'avec l'entité du club.
Je suis bien placé pour te dire qu'il y a toujours eu de l'argent dans le foot, hein, même dans les
Oui.
années 30. Hein. Mais moi, ce que je regrette, et que beaucoup de personnes regrettent, c'est que désormais, il y a un déséquilibre entre certaines équipes qui en ont énormément, qui trustent une cinquantaine de joueurs pro, etc. On le voit bien dans les Coupes d'Europe. Anderlecht, le Steaua, le Celtic, tu les vois plus exister.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on parle de ton livre, Les plus beaux exploits de la Coupe du Monde. Je voudrais savoir pour toi, c'est quoi un exploit?
Eh ben écoute, un exploit, ça vient forcément d'une équipe qu'on n'attendait pas.
Ouais, alors c'est bien de définir ce que c'est un exploit pour toi, parce que tu vois, j'ai vu, c'est Sherif Guémour qui a écrit un livre sur la remontada, et lui, il définissait ce que c'était pour lui, c'est une remontada. Il fallait que ça soit plus de 3 buts d'écart, parce que sinon, il disait, ah ben non,
D'accord.
sinon c'est un sursaut ou un exploit, ou mais une remontada, lui, il fallait qu'il y ait au moins, c'était très intéressant, j'ai écouté son émission, et donc c'est pour ça que je te pose la question. Mais par rapport à cet exploit-là, moi j'ai été très surpris en lisant ton livre, parce que bah, je me suis dit, oh le bougre, il a pas mis France 58, dis donc.
France 58, je t'avouerai que j'ai hésité pour le mettre.
Bah, la France n'existait pas vraiment, Fred, dans le paysage, hein.
Exactement, la France, on l'attendait pas. Bon, j'avoue, je plaide coupable. J'aurais peut-être dû mettre France 58.
Quel est le plus bel exploit pour toi, dans ce livre que tu as écrit?
Ah, le plus bel exploit. Alors, il y en a deux. La Corée du Nord en 66 qui bat l'Italie. Non seulement qui la bat, mais qui mène, qui se qualifie pour les quarts de finale et qui mène 3-0 contre le grand Portugal d'Eusébio en quart de finale au bout de, je sais pas moi, 40 minutes. Hein. Et ils finissent par se faire remonter, hein, 5-3,
Ah ben là, pour le coup, ça c'est une remontada, mais en plein match.
exactement, dont un quadruplé d'Eusébio lui-même. Hein. Et puis, ces amateurs américains.
Je voudrais que tu reviennes sur l'histoire des Américains, s'il te plaît. Tu peux nous raconter vite fait comment ça se passe assez rapidement, parce que j'ai beaucoup de questions à te poser, il y a tellement de sujets. Donc explique-nous en résumé qu'est-ce qui se passe pour cette Coupe du Monde, pour cette équipe des États-Unis.
Ouais, bah écoute, c'est des amateurs purs hein, qui jouent pour 5 dollars le week-end. Ils n'avaient pas gagné un match, me semble-t-il, depuis 1938, quand ils jouent les qualifications pour la Coupe du Monde 50. Bon, ils se qualifient, eux-mêmes se demandent comment encore, puis. Bon, c'est un amas, t'as des Écossais, donc t'as un Haïtien, c'est le joueur dont tu me parlais, tout à l'heure, hein, Joe Gittens, t'as des étrangers qui sont même pas naturalisés américains. Bref, c'est une équipe de bras cassés, si je puis dire, hein. Et bon,
Nous, on a connu, hein, on a connu ça, nous, on en a eu beaucoup des équipes de bras cassés.
bah, c'était des amateurs, hein, comme toi, hein. Comme les
Eh
équipes que tu as
oui, ça m'est, je
connues.
l'étais aussi.
Et donc, par chance, je vais dire, ils battent la grande équipe d'Angleterre de Stanley Matthews, qui faisait.
Ça a été, on sent bien dans le livre que ça a été retentissant, ça a été quelque chose qui a, wow, c'est une claque quoi pour les Anglais, hein.
Ah bah c'est le plus grand exploit de l'histoire de la Coupe du Monde. L'Angleterre faisait ses débuts en 1950 en Coupe du Monde. Je veux dire, ils partaient en terrain conquis. Ils s'attendaient à être champions du monde. Et voilà, c'est un match. Ils peuvent jouer 6 heures sans en marquer un. Hein. Ils vont tirer 6-7 fois sur la barre. Le gardien des Américains fait un match comme on n'en fait jamais. Hein.
À la Darry Cole, notre reporter.
On va
On
dire
en, je,
ça,
ça, je m'en suis voulu parce qu'on n'en a pas parlé dans le foot et le cinéma. Et Darry Cole dans notre reporter, croyez-moi, c'est. Moi, on avait un gardien que j'embrasse, il s'appelle Mika, qui était un gardien extraordinaire quand il était. Quand j'étais en cadet, en junior, et l'entraîneur l'appelait Darry Cole, parce qu'en plus, il était tellement spectaculaire dans ses arrêts qu'il avait un côté très, très Darry Cole.
Ben c'est un peu ça, ouais. Puis au final, donc ben les Américains gagnent 1-0 sur un tir, on va dire, des 30 mètres, qui est dévié de la joue involontairement par ce fameux Joe Gittens, hein, qui sera exécuté dans son pays en Haïti par Papadoc, hein, par la dictature de Papadoc. Et donc voilà, 1-0, c'est le hold-up le plus improbable de l'histoire de la Coupe du Monde.
Ouais. Alors quand je dis que j'ai appris beaucoup de choses, je me suis régalé dans ton livre. Hein. Il y a par exemple, moi je me souvenais plus que l'équipe, enfin, il y a pas que l'équipe de France qui a fait une grève lors de la Coupe du Monde. Et ça, je l'ai appris dans ton livre. Je me rappelais plus. Raconte-nous.
Ouais, c'est en 86, alors moi non plus, je m'en. Pourtant, je suis de 71, la Coupe du Monde 86, je l'ai vécu. Mais effectivement, ce groupe F de Monterrey, en France, on n'en a pas beaucoup parlé parce que tous les matchs avaient lieu très très tard, vers minuit, donc on n'en a eu aucun de ce groupe F. Mais ouais, donc c'est le Portugal. Alors le Portugal qui faisait partie, on va pas dire des favoris, mais des outsiders.
Il y avait du beau monde, hein. Il y avait du Futre, Jordão, Diamantino, je crois, Bento, même si
Oui,
Bento
exactement.
malheureusement se blesse très gravement. Fernando Gomez,
Ouais, c'est ça.
le soulier
Ils
d'or.
étaient demi-finalistes, on s'en souvient tous, de l'Euro 84.
Ah bah oui, évidemment, hein, avec notre Chalana national. Alors oui, on peut pas dire non plus que la délégation portugaise ait été hyper inspirée dans l'organisation de cette Coupe du Monde, parce que tu le racontes dans le livre, c'est ahurissant. Le déplacement, je sais, c'est quoi? C'est on part de Lisbonne, on arrive à Munich, de Munich on va à Stockholm, de Stockholm on va à Mexico, Mexico on va à Dallas, et Dallas on arrive. C'est hallucinant cette histoire.
C'est exactement ça, et je crois pour le même prix, je crois. Ils se sont fait tout un périple autour de la planète, alors que pour le même prix, ouais, je crois qu'il y avait un vol direct pour le Mexique. Effectivement, alors il y a ça, ils se retrouvent à s'entraîner sur un terrain en pente, parsemé de trous.
Bento se blesse.
C'est justement ça, ouais, Bento qui jouera le premier match. Il se blesse entre le premier et le deuxième match. En gros, il se tord la cheville dans l'un des trous. Les Portugais jouent. Alors, ils avaient la possibilité de faire des matchs amicaux contre des sélections, mais c'était trop cher, si tu veux, pour la Fédé. Donc, la Fédé préférait les faire jouer contre le personnel de l'hôtel où ils étaient. Non, mais c'est une histoire hallucinante.
Et on apprend aussi, alors qu'ils étaient dans un hôtel qui était très très proche de la nationale, donc finalement ils n'étaient pas tellement à l'abri de. Ils n'étaient pas en paix, ils n'étaient pas dans un lieu de villégiature. Mais globalement, ils étaient très encouragés apparemment par les femmes du village qui se sont pris d'affection
Alors,
manifestement pour l'équipe portugaise. C'est ça, hein? Je crois
ben
que
oui, alors
tu
bon, on
nous l'as bien
saura jamais
expliqué.
si c'est la réalité ou si c'était une provocation, mais effectivement, donc ils finissent par se mettre en grève. Bon, il y a une histoire de prime en plus, hein, comme dans les équipes africaines qui vient se greffer là-dessus, hein. Donc c'est le scandale. Comme en 2010, hein, pour la France, les députés qui demandent le retour de l'équipe, etc. Et bah, pour le dernier match contre le Maroc, justement, parce que moi je parle du Maroc, hein, qui réalise un exploit en 86, il y a une immense pancarte dans le stade de Monterrey. Qui s'adresse à la Fédération portugaise, les filles de Saltillo, c'est l'endroit où est situé l'hôtel, vous saluent bien.
Ouais, bon, on aura compris le message. Alors, quand je dis que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai même appris qu'il y avait eu un match de la Coupe d'Afrique des Nations qui avait clairement été arrangé entre le Nigeria et l'Algérie. Ça t'a beaucoup développé sur cette partie-là et tu nous expliques qu'il y a eu un match qui a été. Il y a eu une tentative de
Alors,
corruption ou
de la
corruption, explique-nous un
corruption,
peu.
c'est contre de l'argent. En fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu paiement de la part du Nigeria, non. C'est un accord entre deux États, clairement.
C'était pas vraiment quelque chose
Ben
de
oui,
financé,
parce que
c'était
le
plus arrangé,
Nigeria
quoi.
organise la CAN 84. Bon, ça se passe pas très bien. Au Nigeria, il y a des problèmes politiques, un public qui est super chaud, etc. Et donc, dans les vestiaires, hein, il y a une finale Algérie-Nigeria, c'est à Lagos. Bah, clairement, le ministre des Sports algérien annonce à ses joueurs que, bah, écoutez, ça serait bien si vous pouviez laisser gagner vos adversaires du jour, hein, sont chez eux, ça serait bien. Exactement,
Baisser le
voilà.
pied,
Donc,
quoi.
bon, on parle du match de la honte en 82, hein, qui existe vraiment, hein, mais voilà, il y a eu. L'Algérie a pris part, elle aussi, à un match arrangé qui est dénoncé, hein, par. Salah Assad et Madjer, donc
Oui, tout à fait, tu l'évoques dans le livre. Alors justement, on va revenir sur l'Algérie de 1982, parce que tu parles de l'exploit de l'Algérie 1982, tout le monde s'en souvient,
ah,
avec
j'adore,
un
ouais.
maillot absolument magnifique. Toi,
Ah,
tu as.
j'adore,
Ah, il est superbe. Toi, tu as eu Nordin Kouritchi qui a préfacé ton livre.
alors, il me l'a
Qu'est-ce qu'il t'a
pas
raconté, Nordin?
préfacé, mais je l'ai longuement interviewé pour qu'il me raconte sa Coupe du Monde 82, puis son parcours, hein, parce qu'on le connaît tous, hein. Alors, Nordine, effectivement, alors, il m'a raconté le match de la honte, parce qu'il était dans les tribunes avec Daniel Echter.
Comment il l'a ressenti, lui?
Bah, c'était le seul de l'équipe à être dans les tribunes. Il m'avait dit tout le reste de l'équipe était en train de faire du shopping.
Ah oui, d'accord.
Mais ils étaient tous les deux dans les tribunes du stade avec Daniel Echter. Alors forcément, il m'a dit que l'Algérie avait donné le bâton pour se faire battre. Et ça, on ne le sait pas trop. Même en Algérie, ça se sait pas trop. La veille, l'Algérie jouait contre le Chili, une équipe très faible en 82, hein, le Chili. Et donc, l'Algérie gagne très facilement 3-0 à la mi-temps. Et il faut savoir qu'à 3-0, l'Algérie, avec deux victoires et un nul, une large différence de but, ils sont qualifiés dans tous les cas, quel que soit le résultat du match RFA Autriche. Mais bon, ils continuent à attaquer en deuxième mi-temps. Ils s'en prennent deux. Même le Chili est même pas loin d'égaliser, même en fin de match. Ils gagnent que d'un seul but, hein, 3-2. Et bon, une victoire avec un seul but d'écart, ça donne libre cours à toutes les machinations, tous les arrangements le lendemain. Donc,
Ouais, alors il y a quand même, y a quand même quand tu parles de ce match de la honte, la presse va être très très dure. Les Espagnols vont crier dehors aux deux équipes. Hein, ils vont d'ailleurs, je crois, dire Algérie, Algérie. Les commentateurs, alors tu me rappelleras peut-être de quelle nation vont dire, je crois que c'est les Allemands hein, qui vont dire. Bon, éteignez le poste de télévision, c'est tellement honteux, couper la télé, quoi.
ouais, alors aussi bien en Allemagne qu'en Autriche,
C'est ça, hein, c'est ça.
d'ailleurs. Et ouais, je crois qu'il y a un quotidien allemand, l'équivalent de France Foot ou autrichien, je ne sais plus. Il a refusé de noter les joueurs en disant qu'il n'y avait pas eu de match.
Ouais, c'est clair qu'il n'y a pas eu de match. Moi, il y a une histoire qui m'a aussi beaucoup plu. Alors, j'aurais pas pensé. Je me suis demandé si j'étais pas un peu maso. C'est celle de la Bulgarie. J'ai pris
Ah.
beaucoup de plaisir à lire l'histoire de nos bourreaux, parce que clairement, c'est nos bourreaux. Puis il y a l'anecdote avec Stoïchkov quand même et le pape. Ça, c'est super. Tu vas nous la raconter.
Oui, bah, l'équipe de Bulgarie qui était en visite, alors c'est après hein, la Coupe du Monde, hein, en visite à Rome, ils sont reçus par le pape et le pape propose à Stoïchkov de lui bénir le pied gauche.
Ouais.
Et Stoïkov refuse en prétendant que le patron du pape s'en était déjà chargé.
Ouais, c'est extraordinaire. Alors, parmi les histoires aussi qui m'ont beaucoup marqué, il y a forcément celle de Conejo, le gardien du Costa
Ah.
Rica. Véritablement, lui, en 90, c'est Ed Warner quoi, ou Thomas Price, il arrête tout quoi. C'est vraiment le meilleur gardien des trois premiers matchs. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas fini dans l'équipe type du mondial italien, Luis Conejo.
Si, si, alors Conero, c'est mon chouchou et tu le sais. Conero, ouais, c'est le seul gardien de l'histoire de toutes les éditions de la Coupe du Monde à avoir été élu meilleur gardien de la Coupe du Monde en ayant joué que trois matchs, les trois matchs de poule. Le pauvre,
Il se blesse après.
bah oui, voilà, il a qualifié presque à lui tout seul sa sélection pour les huitièmes de finale, mais malheureusement, ces huitièmes de finale, tu te rappelles, contre la Tchécoslovaquie,
Ouais, c'est ça.
il les a jamais joués parce qu'il s'est blessé. Et bon, malheureusement, son remplaçant, bon, la Costa Rica, ils encaissent 4 buts ce jour-là, un triplé de la tête, comme on peut l'imaginer, de
Scoravi.
Kouravi, voilà. Mais sur les 4 buts qu'il encaisse, bah, il y en a 3, enfin au minimum 2, au minimum 2, peut-être même 3, qui sont de sa faute.
Et je crois d'ailleurs que tu l'expliques dans le livre, hein, le gardien du Costa Rica, le gardien remplaçant, lui, il n'a pas fait enfin, il y avait une fête en l'honneur des joueurs costariciens, c'est ce qu'on dit, hein, je crois.
C'est
Et
ça.
voilà. Et en fait, lui, ils l'ont préservé, ils ont été obligés de le protéger parce que globalement, c'était chaud pour son matricule, comme on dit.
Bah oui, il y avait une parade d'organisés, donc au retour des joueurs à la capitale,
C'est
hein.
normal pour un gardien, hein. Une normale, une parade organisée.
Bah oui, enfin lui, j'en cherche encore des parades contre la Tchécoslovaquie. Mais oui, il était menacé de mort même carrément, à tel point qu'on l'a exfiltré du cortège. Et on l'a fait rentrer chez lui discrètement dans la voiture présidentielle
Alors, il y aurait
pendant le...
tellement, tellement d'exploits à évoquer. Il y a aussi un exploit qui te tient beaucoup à cœur, c'est celui de l'Arabie Saoudite. Je crois que celui-là, tu l'aimes beaucoup aussi.
Effectivement, ben les exploits qui nous tiennent à cœur, c'est ceux qu'on a vécu nous-mêmes quand on était ados. L'Arabie Saoudite, ouais, comme le Costa Rica, c'est mes deux chouchous. C'est en 94, ce fabuleux but de Saïd Alaouerane contre la Belgique.
La Maradona, hein.
Exactement. Enfin, c'est un choix. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est pas d'accord avec moi, mais moi, je trouve même qu'il est même encore plus beau que le deuxième but de Maradona
Non,
contre
non, non.
l'Angleterre. Hein.
Non,
C'est le
non.
même, sauf
Non,
qu'il
non, non,
part de
non.
plus
C'est pas
loin.
possible. C'est Diego, et Diego, c'est... Tu peux pas comparer... Non, mais tout est, comment dirais-je... Non, Diego, c'est Diego. Je peux pas te laisser dire ça, effectivement.
Non, mais
Mais
je
non,
sais,
mais
mais t'es
j'aurais...
pas le seul, hein, t'es pas le seul à me le dire.
Mais je respecte ton avis, mais c'est vrai que ce but, il est magnifique. Et puis cet exploit-là, on s'en souvient. Il y a aussi le Cameroun. Tu reparles du Cameroun, c'est tellement beau que tu repars de cette équipe qui est avec forcément le retour de Roger Milla qui joue à La Réunion, qui a 38 ans. J'en parle parce que c'est l'exploit préféré de Francky. Et forcément, lui, il en parle beaucoup. C'est magnifique cet exploit.
Ben oui, mais forcément, comme je te dis, tous les exploits de ces années 86, 90, 94, vu notre génération, c'est les exploits qu'on a vécu nous en direct. Donc forcément, je comprends tout à fait que ce soit les exploits préférés, ouais.
Avec notamment cette défaite, enfin ce premier match où on se souvient Argentine-Cameroun, Maradona qui fait quelques jonglages de l'épaule. Là, les Camerounais doivent se dire oh là là, mais combien on va en prendre? Et puis en fait, finalement, ils gagnent 1-0 avec ce fameux but de François Omambique où il va chercher le ballon dans les étoiles. Et alors, c'est vrai que dans ton livre, il y a quand même un leitmotiv, c'est tu mets beaucoup en valeur les équipes africaines. Hein, il y a beaucoup d'équipes africaines, les équipes du Maghreb, tu parles de l'Algérie, tu parles du Maroc. Mais en fait, la première équipe qui a été le fer de lance des exploits, véritablement, c'est la Tunisie. Hein, c'est eux qui vont commencer véritablement à réaliser. Le petit exploit, c'est pas le grand exploit, on va dire que le Cameroun fait lui le grand exploit. Alors c'est peut-être même pas le Cameroun, tu vas certainement me contredire. Mais en attendant, la Tunisie démarre vraiment quelque chose pour les pays du Maghreb.
Alors pour les pays du Maghreb, mais les pays africains en général, ouais, de 78, donc c'est la Tunisie en 90, tous les 4 ans, les pays africains gravissent une marche et la Tunisie ouvre le bal. Donc en 78, c'est la première victoire en Coupe du Monde d'une équipe africaine contre le Mexique.
Et du coup, on se souvient aussi du Sénégal. Tu parles du Sénégal. C'était aussi assez extraordinaire en termes d'exploits, ce qu'a fait l'équipe du Sénégal.
Mais le Sénégal, entraîné par le regretté Bruno Metsu, hein, qui laisse énormément de regrets, non seulement au Sénégal, mais dans une ville qui me tient beaucoup à cœur, Beauvais. Oui, bah le Sénégal qui réitère l'exploit du Cameroun de 90 en se qualifiant pour les quarts de finale. On s'en souvient tous en battant la France, hein.
Ouais, c'était pas un très bon souvenir, mais avec du panache. C'est une équipe qui a du panache, qui a de la moelle, comme on dit. C'est peut-être un peu, comment dire, peut-être un peu beauf de dire ça, mais j'assume complètement. C'était une équipe où il y avait du jus, quoi, où il y avait des déplacements, où c'était tout était possible, quoi, finalement. Alors, Fred, on arrive en fin d'enregistrement. Qu'est-ce que tu aimerais écrire comme prochain livre?
Ah bah écoute, il est en gestation le prochain livre. Il est très long à écrire parce que il y a de la matière à raconter, hein. C'est franchement. Alors le titre, j'espère qu'il va pas te faire peur, hein. Ça sera un précis de géopolitique appliqué au football.
Ah bah super, ça va beaucoup plaire à Francky, ça.
Durant tout le 20e siècle, hein, 1914-2010.
Bon, bah écoute, ça c'est. On en salive d'avance, parce que ça c'est une partie de notre passion aujourd'hui, c'est prendre le prisme du football pour justement aller chercher l'histoire, parce que l'histoire aussi, on adore l'histoire au FC Vintage, donc c'est
Je
super.
sais.
Tu penses que tu vas le sortir quand?
Ah, écoute, le sortir, je ne sais pas, parce qu'il y a la matière pour en faire quatre à peu près. Quatre tomes, dont un uniquement pour la période 39-45.
Alors tout ça vaut commande, tout ça vaut ton livre, on peut le trouver sur la Fnac, sur le site de ton éditeur, les éditions Spinel, c'est ça?
C'est ça, sur Amazon,
Amazon, sur
chez
tous les bons,
Cultura, etc.
sur toutes les bonnes plateformes, vous allez vraiment vous régaler avec ce livre, les plus beaux exploits de la Coupe du Monde, revenir sur ces moments d'émotion, sur ces moments de joie, sur toutes ces histoires truculentes. Frédéric, on te remercie de nous avoir fait partager un bout de ton livre, certains extraits. Merci de ta présence, merci de nous avoir conté ces histoires.
Ben oui, ben c'est moi qui te remercie, puis qui remercie toute l'équipe, hein, du FC Vintage, de m'avoir invité.
À bientôt et bonne fin de soirée à tous.
À bientôt, bye bye.